Gaudete in Domino Semper iterum dico gaudete. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gaudete in Domino. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je vous le répète, soyez joyeux.
Cher Monsieur l'Abbé Pérez,
chers fidèles, la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent nous offre des textes particulièrement riches et appropriés pour fêter, cher Monsieur l'Abbé, cette première messe que vous célébrez dans notre couvent. Gaudete, votre premier sentiment et le nôtre doit en effet être la joie. Gaudete, réjouissez-vous. Cet ordre de Saint Paul, transmis par la liturgie, trouve un écho profond dans nos cœurs. Quel grand sujet de joie que l'ordination d'un nouveau prêtre. Mais pour bien ressentir cette joie intime qui doit nous habiter en cette circonstance spéciale, il nous faut pénétrer dans le mystère du sacerdoce catholique, de peur de rester à un niveau bien trop superficiel. Si l'on venait vous poser la même question que les prêtres et les lévites posèrent à Jean-Baptiste, « Qui êtes-vous » Que répondriez-vous, monsieur l'abbé? Répondriez-vous, comme fit le précurseur de notre Seigneur, « Non sum ego Christus »« Je ne suis point le Christ » Pourriez-vous dire une telle chose? À considérer les faiblesses inhérentes à notre pauvre nature humaine, assurément. À une telle question, la réponse ne peut être que comme Saint Jean-Baptiste, et c'est le cri du cœur, « Non sum dignus ». Car vous n'êtes pas, comme d'ailleurs aucun d'entre nous, digne de délier la courroie de sa chaussure. Vous ne pourriez répondre que vous êtes le Christ. Mais à considérer la grâce insigne que vous avez reçue au jour de votre ordination, dire comme Jean-Baptiste « Je ne suis pas le Christ » ne serait pas conforme à la vérité, car vous l'êtes devenu en toute vérité. Vous êtes sous ce rapport le Christ. Et en disant ceci, tout est dit du sacerdoce catholique, du sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Tout est dit de la grandeur suréminente du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul fait de ses prêtres d'autres Christ. Au jour de votre ordination, vous avez en effet reçu un caractère qui a marqué votre âme pour l'éternité, pour faire de vous un instrument de notre Seigneur, de notre Sauveur, pour transmettre aux autres âmes les choses divines. Ce caractère vous rend désormais participant du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur est prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, comme nous le dit saint Paul. Et il est devenu, à l'instant même où le Verbe de Dieu a assumé l'humanité du Christ, dans le sein de la Vierge Marie, il est devenu prêtre. Notre Seigneur est prêtre depuis le jour de son incarnation, en raison même de cette grâce tout à fait spéciale qu'il est le seul à posséder, la grâce d'union, union de sa nature divine et de sa nature humaine dans la seconde personne de l'adorable Trinité. Cette grâce est d'un autre ordre, infiniment distant de la grâce sanctifiante qui unit nos âmes à Dieu, bien plus haute. Or, tout prêtre catholique reçoit au jour de son ordination un sceau spécial, une marque dans son âme qui le configure au sacerdoce de notre Seigneur et qui est une participation à cette grâce d'union des deux natures. Ce n'est pas une petite chose et cela place le sacerdoce de la Nouvelle Alliance très loin au-dessus de celui de l'Ancien Testament. Aucune comparaison n'est possible. Le curé d'Ars répétait souvent que le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Et si on le comprenait sur la terre, on en mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Sous ce rapport, assurément, vous ne pouvez donc pas dire « Je ne suis pas le Christ ». Les auteurs spirituels disent souvent à ce sujet que le prêtre est un autre Christ, « alter Christus ». dont Sortet, qui fut abbé de Bellefontaine au siècle dernier, va plus loin et dit que cette expression est en dessous de la réalité. Le prêtre n'est pas un autre Christ, il est le Christ continué. Gaudete, oui, assurément, c'est chose bien grande qu'un prêtre catholique. Et il est bien normal que nous nous réjouissions avec vous, monsieur l'abbé, de cette nouvelle ordination. Mais ne nous arrêtons pas si tôt. Il y a encore beaucoup à dire sur le sacerdoce catholique. Vous n'oublierez pas cet enseignement de saint Thomas, monsieur l'abbé, et de toute l'école thomiste, que le Verbe de Dieu s'est incarné pour sauver l'homme du péché. Car c'est le seul motif que Dieu nous donne dans la Sainte Écriture. Et donc, si le péché n'avait eu lieu, il n'y aurait pas eu l'incarnation. Les conséquences de cette doctrine sont de la plus haute importance pour la conception du sacerdoce que vous avez reçu il y a peu. Dans le plan de Dieu, en effet, si le Verbe de Dieu a assumé une nature humaine, essentiellement pour réparer le péché, notre Seigneur est donc essentiellement, dans sa nature même, le Sauveur, d'où son nom propre donné par Dieu même, Yeshua, Jésus. En hébreu, cela signifie « Dieu sauve ». Dans l'opinion contraire, notre Seigneur ne serait le Sauveur que fortuitement, accidentellement. Déroulons maintenant les conséquences de cette doctrine. Notre Seigneur, qui est essentiellement Sauveur, nous a effectivement sauvés du péché. Comment l'a-t-il fait ? En réalisant le sacrifice de la croix, en se laissant clouer sur un gibet entre deux malfaiteurs, par trois énormes clous qui lui transperçaient les mains et les pieds, en offrant sa vie pour réparer nos péchés. Péchés d'attachement à la terre, nos péchés de concupiscence, nos péchés d'orgueil. Sans ce sang divin versé, nous n'aurions pas accès aux grâces du salut. La croix est indissolublement, essentiellement liée à notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur. L'incarnation est essentiellement tournée vers la croix. En d'autres mots, on ne peut séparer l'incarnation de la rédemption. Notre Seigneur s'est incarné pour nous sauver, et nous sauver par la croix. La crèche conduit au calvaire. Les deux sont intimement liés. Or, le sacerdoce du prêtre, comme il vient d'être dit, participe à cette grâce de l'incarnation. Il est donc lui aussi intimement tourné vers la croix pour prolonger les bienfaits du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement en célébrant la messe, qui n'est autre chose que le renouvellement de ce sacrifice de la croix. La collecte de cette messe nous fait d'ailleurs demander que sans cesse soit offerte la victime de notre sacrifice. C'est là la mission fondamentale du prêtre, offrir le sacrifice de la messe, pour que lui-même et les fidèles puissent se tenir réellement au pied de la croix, puissent s'unir de tout leur cœur à l'oblation du Vendredi Saint, pour que soit renouvelé cet acte sublime, qui a apporté à Dieu plus de gloire qu'aucun autre acte vertueux n'a pu le faire et ne pourra jamais le faire. Sans prêtre, pas de messe. Sans messe, impossible de recevoir cet esprit de la croix. Impossible de pénétrer dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Impossible de recevoir son corps sacré. Cela est tellement vrai que les fidèles qui sont privés de l'assistance régulière à la Sainte Messe, pour diverses raisons légitimes, doivent cependant vivre de l'esprit de la messe, s'efforcer de pratiquer la communion spirituelle pour rester unis à cette source de grâce. Votre travail principal, monsieur l'abbé, consistera donc à dire la messe aujourd'hui et chaque jour, en ayant bien conscience de ce mystère de la croix qui se renouvelle entre vos mains. Comme l'a dit Don Sortet, vous êtes le Christ continué. À l'autel, c'est notre Seigneur qui offre la messe par vos mains. Vous n'êtes en quelque sorte qu'une humanité ajoutée à celle de notre Seigneur. Monseigneur Lefebvre avait l'habitude de dire que la messe représente 90% de la journée de travail d'un prêtre. Et cela est vrai à condition de comprendre qui est notre Seigneur, ce qu'est la messe et ce qu'est le prêtre. Encore une fois, Gaudete. Oui, quelle grande joie que nous partageons avec vous, monsieur l'abbé. Un nouveau prêtre a été ordonné qui va dire tous les jours de sa vie cette messe catholique qui renouvelle le sacrifice de la croix. Votre mission, toutefois, ne s'arrête pas au pouvoir qui vous a été donné sur le corps physique de notre Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce pouvoir même implique un autre pouvoir sur son corps mystique, c'est-à-dire sur les âmes qui vous seront confiées. Votre rôle vis-à-vis des âmes consistera à faire ce que saint Jean-Baptiste répondait aux pharisiens dans l'évangile de ce jour, au sujet de sa mission, à aplanir le chemin du Seigneur et à faire connaître celui que beaucoup ne connaissent pas, notre Seigneur Jésus-Christ, ou encore, selon la secrète, à encourager ceux dont le cœur défaille. Car pour bien conduire les âmes à la réception fructueuse des sacrements, et tout particulièrement de la Sainte Communion, le prêtre, comme l'a enseigné le père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup, doit suivre l'exemple des apôtres. Or, les apôtres ont fait consister principalement leur ministère dans la prière et la prédication. L'administration des sacrements ne venait qu'ensuite. Mais nous, dit saint Pierre, nous nous tiendrons appliqués à la prière et au ministère du Verbe. Car, déclare saint Paul, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. La prière est l'âme du ministère. L'administration des sacrements n'en est que le corps, la partie extérieure. Quant à la prédication, elle participe de l'âme et du corps, puisqu'elle est d'une fonction extérieure qui doit se vivifier par la prière. De là découle l'ordre vrai des saintes fonctions. Il faut d'abord entrer en société avec Dieu. C'est là le point capital. Il faut capter sa grâce, devenir familier avec elle, comme dit saint Grégoire. Ensuite, l'attirer sur les âmes auprès desquelles on aura à exercer le ministère. Après avoir prié, il faut prêcher, il faut instruire. Et la prédication, rendue puissante par la prière qui l'a précédée, amène les âmes à désirer, à demander, puis à recevoir les sacrements. C'est là l'économie de l'œuvre du salut des âmes. C'est dans cet ordre que notre Seigneur veut que les saintes fonctions soient remplies. Prière, prédication, sacrement. Malheureusement, le ministère étant confié à des hommes faillibles et les apôtres ne pouvant transmettre les vertus qu'ils avaient reçues de notre Seigneur, ce ministère pouvait être dénaturé. Et il le fut souvent, hélas. Vous garderez donc bien à l'esprit, monsieur l'abbé, cet ordre divin du ministère ecclésiastique, la prière, la prédication et les sacrements. Le ministère serait sans fruit si ces trois parties n'avaient pas la place voulue par Dieu, si l'ordre établi par Dieu n'était pas exactement conservé et observé. Vous aurez donc à cœur de soigner votre vie de prière. Vous ferez aussi grand cas de vos prédications, de vos catéchismes, pour faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique voie de salut, celui que nous devons aimer et faire aimer par-dessus toute chose. Et alors les sacrements que vous donnerez seront des plus fructueux, pour vous, pour les âmes dont vous aurez la charge. Et vous pourrez redire tous les jours de votre vie de prêtre ce Gaudete de saint Paul, Gaudete mecum in domino, réjouissez-vous avec moi dans le Seigneur. De telles considérations vous placent au-dessus de tous les hommes en vérité. Le but n'est pas que vous en tiriez quelque orgueil, mais bien au contraire, pour que vous ayez une conscience bien nette de vos obligations. Cher monsieur l'abbé, nous vous assurons de nos prières, pour que vous preniez toujours de plus en plus conscience de cette participation réelle par le caractère sacerdotal à la grâce d'union de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous preniez aussi conscience de cette participation à sa mission de sauveur par la croix, surtout par le saint sacrifice de la messe. Et de cette mission toute divine, du salut des âmes par la prière, la prédication et l'administration fructueuse des sacrements. Nous nous confions également à vos prières. Terminons par là où nous avons commencé, par la liturgie. Et mettons sous nos yeux la belle prière de la collecte. Seigneur, prêtez l'oreille à nos prières. Et quand vous nous ferez la grâce de venir parmi nous, apportez votre lumière dans l'obscurité de nos âmes. S'il nous est permis de paraphraser ce texte de la liturgie, nous mettrions sur vos lèvres cette prière. Seigneur, prêtez l'oreille à mes prières. Et puisque vous m'avez fait la grâce de venir en moi le jour de mon ordination, apportez sans cesse votre lumière, la lumière de votre grâce, pour que je ne sois jamais dans l'obscurité. Sainte Vierge Marie, Mère de la Divine Grâce, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.